sur les mots, les derniers versets de l'Ecclésiaste, où il est question d'un chemin vers la mort. Puis le curé de la paroisse fit entendre les mots par lesquels l'apôtre Paul abolit, au nom du Seigneur, les nations et les races. Enfin le vicaire lut le récit de la vocation de Pierre dans l'évangile de saint Jean, « Quand tu seras vieux, un autre que toi nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. » Le provincial des jésuites de Paris monta en chaire. L'assistance ne suffirait pas à l'impressionner, il tenait pour assurer que l'intelligence ou le talent égare plus souvent qu'il ne sauve, opinion qui parfois l'inquiétait lui-même. Le R.P. Philibert, en effet, était très intelligent. Il voyait de haut les travers et les vices. L'habitude du péché l'avait débarrassé des illusions. En d'autres temps, sans doute aurait-il usé de sa lucidité sans apprêt pour gouverner les hommes. Comme il était trop fin pour prétendre gouverner les âmes, son énergie restait sans emploi. Dans les mauvais jours, elle s'épuisait en ironie. Lorsqu'il croyait avoir blessé quelqu'un, il pouvait faire preuve d'une humilité désarmante, lui demandant pardon comme à l'un de ses frères, fût-ce en public. Et l'exemple qu'il donnait sans le vouloir révoltait plus les spectateurs que son ironie ne l'avait fait. Assez grand, le visage italien, le nez fort et anguleux, les cheveux blancs ramenés vers l'arrière, il allait dans les salons au point que ses ennemis pouvaient ouvertement l'en blâmer. On l'y avait même vu, paraît-il, allumer des cigares. Malgré les cigares, il vivait pauvrement, et il en souffrait. Il allait plus loin aussi, à Sainte-Anne par exemple, et personne n'en savait rien. Il avait dit un jour à un ami, « C'est entendu, je vais dans le monde, c'est que je sais exactement la pâte à laquelle j'ai affaire, c'est la mienne, je suis aussi comptable devant Dieu de mon temps, quant au plaisir que j'y prends, n'ayez pas d'inquiétude, il est payé déjà. » Le père Philibert regarda longuement le public. D'abord le premier rang, puis le second, le troisième, toutes les travées jusqu'au fond de l'église, comme s'il voulait forcer l'attention de chacun, la ramener à ce mort, à cette vie et à Dieu. Il était ainsi présent à chacun de ses actes avec une entière concentration, convaincu qu'il était qu'une partie décisive se joue à chaque moment de l'existence, une partie qu'il suffit de très peu pour gagner ou pour perdre, et dont on ne parvient à maîtriser les règles qu'à la condition de s'oublier soi-même. Il savait n'y être pas parvenu, il savait aussi que la plupart n'y parviennent pas, mais il ne cessait de les exhorter à méditer cette incapacité en quoi consistait pour lui le péché. Il aimait les pécheurs et détestait les complaisants. Il connaissait, pour les avoir observés en lui-même, toutes les ruses de la complaisance. « Péchez si vous voulez, disait-il à ses ouailles, mais par pitié ne corrompez pas les principes. » Et à ses novices, le secret est simple, prenez Dieu au sérieux, prenez la vie au sérieux, ne vous prenez pas au sérieux. Il voyait le chrétien isolé dans un monde complaisant, où l'œuvre du diable était visible. Il fallait sans cesse remettre la création sur ses pieds. J'ai connu un homme, et c'est pour un autre homme que vous êtes venu. De toute éternité le Seigneur en connaissait un troisième qui réconcilie les deux premiers. Je vous propose d'abord de méditer ce mystère. Il commenta les lectures du jour. Par petites touches, il dessinait une figure assez inhabituelle du mort. Non qu'elle fût flattée, l'angle seul était différent. Pourtant, il restait discret. D'Alcossé qu'il avait bien connu semblait-il, il ne disait rien qui lui mieux valut taire, et d'ailleurs son sermon avait un autre but, non pas retracer une carrière ou même honorer une mémoire. Ou encore incité à prier pour une âme qui maintenant, dans le face-à-face éternel, devait bien savoir à quoi s'en tenir, mais en s'appuyant sur les péripéties de cette destinée, conduire quelques-uns de ces milliers d'hommes à regarder la leur en face. Deux ou trois suffiraient. Ainsi la matinée n'aurait pas été perdue. De fait, son propos, tendu vers l'efficace, avait de quoi surprendre. Les formes apparentes de la dévotion en étaient absentes, comme s'il avait voulu avancer profondément sans se découvrir, sachant par expérience qu'il n'y a rien à gagner à déclencher trop tôt le sarcasme ou le haussement d'épaules. Selon le précepte évangélique, il songeait d'abord aux brebis égarées, et parmi celles-ci aux plus rétives, celle dont l'égarement, volontaire, avait été mûri et décidé. Une oraison funèbre se prêtait mieux à cette recherche qu'un sermon du dimanche. Il pouvait faire avancer ses arguments derrière le rideau de fumée de la vie sommairement racontée du mort, une vie pleine, avait-il dit, à quoi Lacombe avait répliqué en pensée, une vie ratée. Qu'est-ce qu'un ratage, Léonard est un raté, pour les dévoiler brusquement en quelques phrases aussitôt prolongées par le silence auguste de l'église, en sorte qu'elle frappe droit au cœur. Il ne désirait d'ailleurs pas convaincre, les temps selon lui ne s'y prêtant plus, mais inquiéter, ce qui n'est pas faire peur. Pas de menace, la peinture du châtiment éternel pourtant bien anodine au regard de ce que devait être la réalité avait cessé d'agir sur les esprits, seulement les quelques mots qui suffisent à faire lever comme pâte l'ambiguïté des constructions uniquement humaines, à les faire voir pour ce qu'elles sont, bâties sur du sable, décors en trompe-l'œil, rue provisoire, spectacle rassurant qu'un peuple de Potemkin se donnerait à lui-même. Remettre la création sur ses pieds. Vous croyez à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Vous savez distinguer la puissance et la faiblesse. Imaginez un instant que celui qui s'adresse à la Samaritaine penchée sur son puits soit aussi le créateur des mondes. Et, plus encore, qu'il ne cesse pas de l'être, minute après minute, seconde après seconde, et que dans le court moment où il dévoile de façon si énigmatique le secret de sa double nature et lui parle de l'eau vive, il embrasse d'un seul regard l'histoire de l'univers du début à la fin.